Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver à l'écoute de notre émission catholique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous recevons le Père Michel de Gigor. Père Michel, bonjour.
Bonjour.
Père, vous êtes venu en décembre dernier pour prêcher des retraites au mois de janvier. Retraites sur lesquelles nous reviendrons dans une émission ultérieure. Mais pour nous-mêmes et pour nos auditeurs, qui êtes-vous, si je peux le dire comme ça ?
Qui suis-je ? Question difficile. C'est Socrate qui disait « connais-toi toi-même, c'est le but de toute vie ». C'est pas facile de dire qui on est. Enfin voilà, grosso modo, je suis de la métropole, je suis né en 1940, j'ai une enfance relativement normale, voilà. Je n'étais pas un étudiant très brillant, j'aimais surtout m'amuser, jouer, faire du sport, danser avec les filles, j'aimais la vie, c'est ce que j'aimais de loin le plus, les études je les ai fait par devoir. Là j'ai péniblement obtenu mon bachot à l'âge de 19 ans, j'avais donc au bas mot 2 ans de retard. Et c'est à ce moment-là que tout d'un coup m'est tombé sur la tête cet appel qu'on appelle la vocation, cet appel, et j'ai entendu une voix très forte, très nette, très claire, qui me disait « Pourquoi n'essaierais-tu pas de... ?» Cette voix ne m'a même pas dit d'essayer, elle m'a dit « Pourquoi n'irais-tu pas au séminaire ?» Une grande surprise chez moi et dans toute ma famille. Et je passe sur les détails parce que 10 minutes c'est très court. Je rentre donc au séminaire à l'âge de 19 ans bien tassé et je m'y ennuie mortellement. Parce que j'étais avec des jeunes qui eux avaient fait toute la carrière du petit séminaire, etc., qui connaissaient tous les machins par cœur. Moi, tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, c'était complètement nouveau. Et franchement, ça m'ennuyait terriblement. Et si je suis resté au séminaire, c'est fondamentalement parce qu'il y avait une très bonne équipe de football au séminaire, qui était connue dans la région comme une bonne équipe. Et donc, moi, je me suis défoncé avec le football. Et puis, j'ai péniblement terminé mes 2 premières années de séminaire. Et à ce moment-là, à cette époque-là, en France, il y avait encore le service militaire. Je suis parti au service militaire, je suis parti donc en Algérie, parce qu'il y avait la guerre à ce moment-là en Algérie. Et c'est là que les choses se sont dénouées. Et j'ai découvert que tout le monde, tous mes copains au service militaire savaient que j'étais séminariste. Et je me suis aperçu de façon très, très étonnante que parce qu'on me connaissait comme séminariste, on venait me voir, on me confiait des tas de choses, leurs problèmes, leurs rêves et tout ça. Et petit à petit, à travers cette expérience-là, je me dis, si ça c'est être un prêtre, alors ça, véritablement, ça m'intéresse. Et donc, je suis rentré au séminaire, dans le deuxième cycle du séminaire. À ce moment-là, j'étais beaucoup plus motivé, donc les études ne m'ont pas vraiment passionné, mais en tout cas, je me suis attelé avec plus de courage, là, et j'ai donc terminé mon séminaire, j'avais à cette époque-là 26 ans. Et quand mes supérieurs m'ont ordonné, ils ont trouvé que j'étais un vrai gamin, que je manquais totalement de maturité, ce qui était tout à fait vrai. Et donc, on m'a envoyé pour faire 3 années supérieures, supplémentaires d'études. Et là, on m'a envoyé à Rome. Et là, ça m'a passionné parce que le concile du Vatican venait juste de se terminer. Et donc, tous mes professeurs étaient imbibés de toutes ces idées nouvelles avaient été débattues pendant le Concile du Vatican. Et pour moi, c'était tout à fait passionnant. J'entendais parler enfin d'une église qui correspondait un petit peu plus à ce que je voulais. Et donc, j'ai terminé mes études de sociologie religieuse, passionnantes d'ailleurs ces études-là. Et comme les missions étrangères de Paris, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais on part tous en Asie, à la fin de mes études à Rome, je suis parti en Asie. Là, j'ai donc été envoyé d'abord en Malaisie, où j'ai vécu à peu près 10 ans. Et ensuite, je suis parti aux Philippines, où j'ai vécu Entre la Malaisie et les Philippines, je suis reparti à Rome pour faire de nouveau des études, cette fois-ci sur l'islam. Et après ces études sur l'islam, je suis parti aux Philippines et je suis resté 20 ans aux Philippines, jusqu'à ce que de nouveau j'entende une voix très, 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 très forte en moi et qui me disait, pourquoi ne retournes-tu pas en France? La première fois que j'ai entendu cette voix-là, je l'ai foutue de côté à grande vitesse. J'ai pas voulu entendre du tout cet appel-là. Mais quand Dieu a une idée dans la tête, il est têtu. Il est têtu et il lâche pas vite ce qu'il a en tête. Et pendant presque 8 ans, j'ai combattu, combattu, combattu contre cette idée-là. Et puis, ben, c'est lui qui a gagné. Et en 2001, la mort dans l'âme, j'ai quitté les Philippines pour rentrer dans mon pays, la France. Et j'ai retrouvé le diocèse où j'avais été ordonné. Et je me suis mis à la disposition de mon diocèse. Et donc maintenant, ça fait à peu près 2001-2018, ça fait 17 ans. 17 ans que je suis rentré en France et je me débats le mieux que possible dans une église que je ne comprends pas. En règle générale, je dois vous dire, je ne comprends pas mon pays. Et si je dois être tout à fait honnête, je l'aime pas beaucoup. C'est peut-être pas glorieux, mais c'est la réalité. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas ce pays. Donc, par exemple, en ce moment, la crise des gilets jaunes, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon. Moi, je dis toujours la France. En tout cas, la France que je connais, c'est-à-dire la France métropolitaine, si on prend en compte tous les critères de bonheur que peuvent être la beauté d'un pays, la variété de ses paysages, on a tout, on a des montagnes aux neiges éternelles, des mers en veux-tu, en voilà, des forêts gigantesques, des champs de blé à perte de vue, des lacs, des rivières, on a tout. Si on prend ce critère-là, on est top. Si on prend le critère de la vie économique, on est parmi les plus privilégiés du monde à tous les points de vue. Si on prend le problème de l'art, la beauté des églises, des châteaux, des villages, etc., c'est un pays absolument extraordinaire. Si on prend le critère d'une liberté, on a quand même beaucoup de liberté en France. Et pourtant, les Français sont de loin, de tous les pays que j'ai connus, de loin le pays le plus râleur. Les Français sont les plus râleurs des gens que j'ai jamais rencontrés dans ma vie. Et je crois que je ne m'y habituerai jamais.
Père de Gigord, il y aurait tellement de choses encore à dire, mais le temps passe. Et avant de conclure ce bel entretien, voulez-vous adresser un message à nos auditeurs?
À mes auditeurs, ben, on est au début de l'année et je ne tomberai pas dans le panneau de vous dire je vous souhaite mille et mille choses et surtout la santé. Ça m'énerve au plus haut point. Je ne dis jamais ça. Je considère que la santé, c'est quelque chose de très important, mais c'est pas surtout la santé qui compte. Ce qui compte surtout, c'est la sagesse, la force, force mentale, la foi. En Jésus-Christ, j'aimerais entendre plus souvent, je vous souhaite tous mes bons voeux et surtout une foi vivante, profonde dans le Christ Jésus.
Merci beaucoup, Père Michel. Amis auditeurs, merci. Je vous rappelle que nous étions en entretien avec le Père Michel de Gigord, prêtre des missions étrangères de Paris. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Nous vous invitons à suivre l'émission Dieu m'est témoin sur NC La Première. Nous vous souhaitons un très bon dimanche, une très belle et très sainte semaine. Au revoir.